Vous écoutez
RMC.
Allons-y, Marc. Le Racing, qui était reparti très très bas il y a quelques années. Bon, tout le monde connaît l'histoire, les auditeurs de l'After connaissent l'histoire de ces matchs amateurs, finalement, du Racing pour repartir. On parlait tout à l'heure de Raon l'étape en arrivant dans le studio. Passer de Raon l'étape à la Coupe d'Europe en quelques années. Donc l'histoire, la renaissance du club a été rapide. Belle. Et là maintenant c'est une nouvelle étape avec donc un nouveau propriétaire, un fonds d'investissement qui s'appelle Blueco, à qui donc Marc, vous avez vendu avec vos co-actionnaires le club. Pourquoi et comment ça s'est passé?
C'est une grande question avec toute une histoire de 10 ans, un conte de fées je trouve, puisqu'on est reparti de CFA 2 CFA jusqu'en Ligue 1. Ça a été de belles années dans le monde amateur. Une année en CFA 2, une année en CFA, trois années en National, une année en Ligue 2 et maintenant six ans en Ligue 1. Donc ça a été une ascension magnifique avec un public qui a suivi même en National et en CFA à l'époque. Des super souvenirs que vous connaissez aussi puisque vous adorez le club. Et c'est vrai que depuis quelques années, je disais qu'on avait atteint un petit peu après l'ascension, c'était un petit peu la pérennisation un petit peu en Ligue 1. J'avais le sentiment qu'on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire, parce que nos recettes plafonnaient maintenant depuis deux ou trois ans. Alors les recettes d'un club de foot en Ligue 1, c'est bien sûr la billetterie. Nous, on est plein à tous les matchs, on est à guichet fermé.
Cette année, c'était guichet fermé à tous les matchs.
Ouais, à tous les matchs. Mmh. Tout ce qui est salon, loge, tout est plein, les sponsors, tout est plein. Et je trouve qu'on arrivait maintenant à un plafond de verre. Et je pense qu'après les années d'ascension, les années aussi de pérennisation, je pense que ce soit moi ou les actionnaires qui étaient avec moi, mes amis, depuis 2-3 ans, on s'est dit, tiens, comment le Racing peut encore franchir une étape? Et pour franchir une étape, l'arrivée du nouveau stade va nous aider. Donc les travaux ont commencé, donc c'est des travaux pour 160 millions d'euros dont on reparlera peut-être. Mais après, c'était soit nous on prend des risques, soit on fait venir des gens qui vont un peu doper tout ça, et c'est ce qu'on a voulu faire. Et on s'est organisé en conséquence depuis un an et demi, on s'est rapproché de la banque d'affaires Centerview, travaillé aussi avec Sport Value, Nicolas Blanc. Et depuis un an et demi, on s'est mis vraiment dans un process un peu plus sérieux pour préparer les choses. En sachant qu'on n'avait aucun stress puisque le club est sain financièrement. On dégage des résultats positifs chaque année. On ne prend pas de dividendes, on les met en fonds propres. Donc on n'avait aucun stress, je dirais, d'urgence. La seule chose qu'on avait en tête, c'était comment faire progresser le Racing. Voilà. Et le faire le plus juste possible pour l'avenir du club.
Est-ce que vous avez discuté avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs fonds d'investissement pour reprendre le club, ou il y a eu uniquement les discussions avec Blueco?
Alors, il y a deux ans, trois ans, on avait discuté d'une manière assez proche avec une famille allemande, mais c'était plutôt un appel entrant, le fruit d'une relation, vraiment le hasard. Et après, il y a eu le Covid. Donc, pendant le Covid, bien entendu, c'était impossible d'aller plus loin parce que quand il y a des tempêtes, je pense que le président et les dirigeants doivent être absolument présents parce que c'est une période très difficile à traverser. Et dès que le Covid était passé, on s'est organisé comme je viens de le dire. Et effectivement, on a eu une dizaine de gens intéressés, puis ça s'est réduit à trois, à deux. Et après, on s'est orienté depuis début janvier, février, vers Blueco, dont on parlera. Et on s'est concentré là-dessus, on a finalisé il y a une dizaine de jours.
Donc ça veut dire que le Racing était un club qui séduisait, quoi. Il y avait plusieurs acheteurs potentiels. Non, mais c'est important parce que les d'autres clubs français ont été dans le même cas récemment. Le foot français attire.
Alors je pense que l'arrivée de CVC et un peu le projet que porte Vincent Labrune maintenant depuis deux ans dit que le football français doit progresser. Actuellement, on est plutôt le cinquième en Europe. Bien sûr, la Première Ligue est largement premier. Et je pense qu'avec CVC, mais l'arrivée aussi d'autres investisseurs en Ligue 1, les gens se disent, c'est un championnat qui peut se développer. Et c'est un peu le pari de Blueco, qui est une société avec des investisseurs importants. Ils sont venus dans le monde du sport parce qu'ils croient au développement du sport. Ils ont d'abord investi dans ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le meilleur championnat en Europe, c'est la Première Ligue avec Chelsea, qui est une marque mondiale, on peut dire ça comme ça. Et ils voulaient aussi un deuxième club dans un championnat plus bas, mais prometteur et capable de se développer. Donc ils voulaient venir en France. Et en France, effectivement, ils ont discuté avec quelques clubs, mais très rapidement, ils sont venus vers Strasbourg. Ils étaient attirés, je crois, par la qualité de la ville, la qualité aussi de notre communauté des supporters, puisque le stade est plein, c'est une ambiance formidable. Et je crois aussi par la gestion du club, où on est un club, disons, sans aucun problème, on fait des bénéfices. Et l'argent qui va être amené sera utilisé pour les investissements, et pas du tout pour des dettes ou pour combler des trous. Donc finalement, ça a simplifié les choses. La relation a été bonne dès le départ. Et l'audit simplifié, puisqu'on est un club où il n'y a aucune histoire. Et donc finalement, tout le travail des banques, des auditeurs et des juristes a été simplifié par, je pense quand même, la qualité du club.
Kevin. C'est sûr qu'on le disait la semaine dernière, bon, le Racing Club de Strasbourg, c'est pas parce que Gilbert est là, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est un exemple aujourd'hui dans le football français. On voit par exemple des clubs comme Nancy, malheureusement, qui redescendent. Si on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire sur les 10 prochaines années, ils vont dire on veut faire comme Strasbourg. Donc c'est clairement un exemple. Voilà, en plus, s'appuyer sur des entrepreneurs locaux comme vous avez fait, avec une fanbase, comme disent les Américains, mais des supporters qui sont très présents, etc. Tout ça c'est bien, mais il y a une chose quand même, c'est que vous avez parlé de ces investisseurs qui viennent en Ligue 1. Mais qui sont ces investisseurs et pourquoi ils viennent en Ligue 1? Ça, c'est autre chose. Parce que aujourd'hui, en gros, on n'est pas sur ce qui se passe en Première Ligue. On est un peu la succursale de la Première Ligue. Que ce soit avec Lorient, succursale de Bournemouth, avec tout le respect que j'ai pour Bournemouth. Très beau club, mais bon, petit club quand même. Donc Lorient, succursale de Bournemouth. Aujourd'hui, Strasbourg, qu'on veuille ou non, sorte de succursale de Chelsea. Et c'est pareil pour Troyes avec Manchester City. Et on a vu ce que ça a donné. Donc, moi, ce que j'aimais avec Strasbourg, c'est qu'il y avait... En fait, c'était ce que je dis, c'est l'exemple. C'est-à-dire que c'était des investisseurs locaux. Alors, certes, à un moment, il y a peut-être un plafond de verre. Et on se dit, ah, ça va être difficile d'aller au-dessus. Mais est-ce que Strasbourg doit vraiment aller au-dessus? Est-ce que Strasbourg, comme vous avez fait l'année dernière, est-ce que c'est pas ça, en fait?
C'est vrai que moi, j'étais surpris de voir Strasbourg racheter. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Parce que tout à l'heure, vous parliez du bilan. Mais vous avez gagné une Coupe de la Ligue en 2019, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, faut le rajouter. L'année dernière, vous faites 6-7e, bon, cette année, un peu plus compliqué. Mais on n'avait pas l'impression que...
Tu voulais qu'on joue le maintien tous les ans, en fait.
Non, mais...
T'es à ta place, après un moment, quand t'es un club comme Strasbourg, c'est ce que je disais.
Est-ce que Marc, en sympathisant, est-ce que le choix, c'était, ok, galérer pour se maintenir tous les ans, et puis espérer, pourquoi pas, un coup en coupe, ou bien franchir un palier? En fait, je le schématise un peu comme ça, mais...
Alors, déjà... Quel est le club? Quelle est l'analyse que je fais? Où est Strasbourg aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, le Racing est un club, naturellement, je pense, avec le travail qu'on fait, entre la 8e et la 12e place. C'est un club qui est sain financièrement. C'est un club qui est... Le stade est plein. L'ambiance est formidable. Moi, je demande chaque fois à l'entraîneur, chaque année, que les gens soient contents, qu'on joue bien et qu'on soit entre la 8e et 12e place. Voilà. À côté de ça, quelle est l'analyse que je fais un petit peu exogène, c'est-à-dire extérieure au club? La Ligue 1 est passée de 20 à 18. Moi, j'estime que c'est un vrai changement pour tous les clubs en dessous de la 8e place. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un vrai risque supplémentaire chaque année. La deuxième chose, c'est qu'il y a un changement très important qui va arriver avec les droits internationaux à partir de 2024. C'est que quand l'augmentation des droits internationaux va arriver, en réalité, les droits internationaux vont être fléchés vers les clubs européens. Ce qui veut donc dire qu'il faut être absolument dans le top 6 pour avoir l'apport de ces fonds. Et le troisième élément très important pour moi, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, c'est l'arrivée quand même massive d'investisseurs en France. Ça veut dire que Strasbourg, dans un schéma normal, dans un club normal, est hyper bien placé en France. Mais avec les facteurs dont je viens de vous parler, je pense que si on ne s'organise pas pour l'avenir, il y a un vrai risque que dans les années qui viennent, malgré le travail qui est fait, on puisse à un moment donné 8-12 un peu flirté 13, 14, 15, et malheureusement à 18, il y a danger. Alors c'est vrai, Kevin, vous avez raison, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on a fait dès le départ. Quand on a repris le club, moi j'étais rentré chez moi quand j'avais vu le maire et le maire adjoint, et j'avais marqué sur une petite feuille blanche trois choses que j'ai souvent répétées, mais que j'ai respectées avec mes amis pendant 10 ans. Un, on voulait un club sain financièrement. On pense que c'était la base d'une réussite dans la durée, c'est de ne pas faire des trous chaque année. La deuxième chose, on voulait une gouvernance stable et apaisée parce que Strasbourg était considéré comme un club un peu instable. Et moi, je voulais absolument que le président soit là, mais que la priorité, c'est l'entraîneur et les joueurs. On est là pour ça, on n'est pas là pour faire les malins, on est là pour organiser le club, pour donner les meilleurs moyens à l'entraîneur et aux joueurs. Et le troisième point, qui rejoint ce que vous disiez, on était un club territorial. C'est un mot très à la mode depuis quelques années. Mais nous, à Strasbourg, on a vraiment construit le club sur cette territorialité, c'est-à-dire Strasbourg, la métropole et la région Alsace. Ça a été notre force. Moi, je pense malgré tout que il faut parfois pas avoir un coup d'avance, mais il faut penser à l'avenir. Et je pense qu'avec les facteurs dont les éléments dont je vous parlais avant, je pense qu'il fallait réfléchir parce que, au fond de moi-même, je pense que Strasbourg, avec la qualité de la ville, la qualité de la métropole, la qualité de notre public, on peut viser un peu plus haut. Et si on cherche pas à aller un peu plus haut, à un moment donné, on prend un risque.
Mais est-ce que, monsieur Keller, ça vous met pas une pression supplémentaire avec ce rachat en termes de résultats? Parce que là, vous nous expliquez, en fait, que, avec ce rachat, les performances que vous faisiez précédemment,
oui,
c'était de la surperformance par rapport à vos moyens, et que sans ce rachat, en fait, finalement, Strasbourg pouvait aller en Ligue 2 très très rapidement.
Alors, je pense que normalement, dans une année normale, et d'ailleurs, Frédéric Antonetti, quand il a repris l'équipe, il a terminé sur un rythme à peu près de entre 58 et 60 points, ce qui fait grosso modo entre la 8e et la 10e place. Je pense que ça, c'est la place aujourd'hui que Strasbourg a, en faisant un travail sérieux, avec de l'ingéniosité, avec vraiment une unité totale interne et externe qui fait la force de Strasbourg depuis 10 ans. Mais je crois aussi qu'avec l'arrivée des investisseurs à côté, si on n'essaie pas de s'organiser pour aller plus loin, pour aller plus haut, on prend un risque. Et on parlera peut-être aussi des travaux qu'on va entamer, parce qu'il y a 160 millions de travaux qui vont arriver financé par les collectivités pour rénover la Méno. Sur ces 160 millions, nous, on va mettre à peu près 25 millions nous-mêmes pour améliorer la fan zone, les loges, les bureaux. Donc, on va investir aussi. Et on a un retard d'investissement aussi dans les infrastructures du centre des pros et de l'académie. Grosso modo, on a une cinquantaine de millions à investir dans les 2 ou 3 ans. Et moi, je crois, avec mes autres actionnaires qui étaient mes proches depuis 10 ans, qu'il fallait qu'on s'organise pour être prêt à assumer ça, sans obérer l'ambition sportive. Et on a estimé que par rapport aux éléments dont je vous parlais, et ces éléments-là, qu'il fallait qu'on s'organise pour se préparer aux années qui arrivent, qui vont être aussi difficiles en termes d'investissement.
Marc, est-ce qu'on peut connaître le prix de vente?
Non, mais par contre, vous verrez très rapidement qu'il y aura de vrais investissements dans l'équipe 1, dans l'académie, aussi autour du club.
On va reparler Mercato tout à l'heure. L'équipe a donné une info, a dit oui, une enveloppe de 25 millions.
C'est pas le chiffre qui est juste. Non.
Bon. Mais quand. C'est peut-être la pub là, je sais pas, mais.
Une dernière, après on
une dernière. Quand vous parlez, c'est rassurant, et je pense que ça doit être rassurant pour les nombreux supporters strasbourgeois qui nous écoutent, mais vous dites encore nous ou on. Ça veut dire que vous êtes encore là comme investisseur ou vous êtes là comme président?
Alors moi, j'ai été président, quelque part propriétaire, parce que j'étais l'actionnaire principal, mais j'étais avec une douzaine d'amis, chefs d'entreprise locaux, et on a été unis du début à la fin. Gilbert les connaît, ambiance formidable, et malgré, parce que tout le monde dit que Strasbourg a progressé, oui, mais on a traversé aussi plusieurs crises depuis 11 ans de résultats, parce qu'un club de foot, c'est ça, mais on a chaque fois su trouver les solutions pour traverser ces périodes difficiles, grâce à l'unité qui était la nôtre, en interne et en externe. Maintenant, c'est vrai, on a tout vendu. On a vendu 100%.
Vous avez vendu 100%.
C'est très clair. Maintenant, pourquoi on a choisi Blueco? Je pense que c'est important de comprendre. On cherchait des gens avec des moyens importants. On cherchait des gens aussi capables d'investir dans le club sans forcément avoir recours à la dette. Eux, ils le font avec leur capital. Mais surtout des gens qui s'appuient sur la base du travail qui a été fait depuis 11 ans. Que ce soit au niveau des dirigeants, et donc de moi, mais aussi des salariés. Et l'équipe proche qui est autour de moi depuis 7, 8, 10 ans sont des gens qui ont été maintenant renouvelés, qui vont rester. Parce que l'idée de Blueco, bien sûr que je partage, sinon on n'aurait pas vendu, c'est d'essayer de partir sur la base qu'on a faite, qui est une base très sérieuse, et avoir un peu plus de moyens pour viser un peu plus haut.
Ouais, je crois même savoir que Blueco a dit « on vient si Marc Keller reste ». C'est vrai ça?
C'était mieux. C'était mieux, mais disons, je crois qu'on a trouvé des gens qui ont une volonté d'investir, qui ont une volonté de s'appuyer sur ce qui a fait la force du club. Donc moi, je reste président. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des actionnaires au-dessus de moi, évidemment, avec qui je dois m'entendre et travailler. Mais ils ont le même objectif que moi, c'est faire progresser le club. Et c'est ça l'équilibre qu'on essaie de trouver maintenant.
Mais est-ce que ça peut matcher?
Attends, Walid, on fait une petite pause et on revient, on continue la discussion. On est ensemble jusqu'à 23h. On parlera ensuite Mercato, on parlera du futur coach du Racing, puisque à l'heure où on parle, il n'y en a pas. Ce sera dans quelques minutes, bien sûr, dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.